Portrait de femme, cette émission hebdomadaire, c'est avec Jacqueline et entièrement réalisée par Jacqueline Engrave. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Neuvième portrait d'une femme exceptionnelle.
Oui. Alors, j'avais dit la dernière fois que je changerais de siècle, puisque les portraits que vous venez d'énumérer sont majoritairement du 19e siècle. Mais j'ai changé d'avis et aujourd'hui, nous restons dans le 19e siècle avec le portrait d'une femme exceptionnelle, une héroïne aventurière anticonformiste qu'on appelle l'Amazone du désert et qui est connue quand même, mais peut-être pas très bien connue des nouvelles générations, qui s'appelle Isabelle Eberhardt. Isabelle Eberhardt, donc fille illégitime de Natalia Mörder, née Eberhardt, une aristocrate, et d'Alexandre Trofimovski, un anarchiste de pensée tolstoïenne, tous deux réfugiés russes. Isabelle Eberhardt est née à Genève le 17 février 1877. Elle porte le nom de sa mère et vit en Suisse avec les autres enfants de Natalia, ses frères. Elle est instruite par Trofimovski, qu'elle appelle affectueusement Vava. Chez eux se croisent de nombreuses personnalités de tous horizons. On y parle russe, français, allemand, italien, arabe, dans une effervescence culturelle permanente, enrichissante pour l'esprit et donc pour la petite fille qu'elle était. Par ses frères, engagés militaires, elle entend les premières descriptions de l'Algérie et, à 18 ans, publie ses premiers textes sur ce pays qu'elle ne connaît pas encore. Elle fait son premier voyage en Algérie en 1897, à 20 ans, avec sa mère. Elles adoptent toutes les deux l'islam. Elles s'installent à Annala, anciennement Beaune en Algérie, préfèrent les quartiers algériens les plus pauvres et détestent les quartiers européens. Donc ça a un sens. Ainsi, dès ce premier voyage, à 20 ans, elle se place d'emblée du côté et aux côtés du peuple autochtone, au point de vouloir s'identifier à lui, plus exactement à sa partie libre, sa partie masculine. Mais sa mère décède en novembre 1897 à 58 ans. Elle l'enterre à Beaune, puis rentre en Suisse pour veiller sur Trofimovski qui est malade. Après la mort de celui-ci, elle repart très vite en Algérie. Dans sa courte vie, Isabelle Eberhardt séjournera 4 fois en Algérie. Elle a pris le nom masculin de Mahmoud Saadi, son identité algérienne désormais. Elle choisit, par goût de la transgression et pour mieux rompre avec les mœurs de son temps, de porter des vêtements d'homme, de se raser la tête, vêtements d'homme plus pratiques pour se fondre parmi la population locale et parcourir à cheval le désert en se joignant aux caravanes. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Amazone des sables. Remarquons qu'elle a adopté le costume d'homme et non celui de la femme traditionnellement confinée au foyer domestique, statut de soumission plus ou moins grande, celui que, précisément, elle a fui, ce qui aurait été en totale opposition avec sa soif de liberté et de grands espaces. En cela, son adoption de l'islam est autant, et peut-être plus, culturelle et même politique que religieuse. En conséquence, elle est acceptée, respectée par la population locale, mais pas par la bourgeoisie coloniale qui se méfie d'elle et dont elle subit les intimidations. En août 1900, elle trouve l'amour en la personne de Slimane Henny, sous-officier du 3e Spahi. Les Spahis, c'était des cavaliers de l'armée française, un corps créé en Algérie avec un recrutement autochtone. Donc, il est musulman de nationalité française. Elle l'épouse à Marseille en 1901 et, devenue française par ce mariage, revient en Algérie où sa connaissance du Coran lui attire l'estime des chefs spirituels qu'elle fréquente dans les lieux de prière et de recueillement. Mais elle fréquente aussi les lieux populaires où l'on boit et où l'on fume. Donc en immersion totale avec la population autochtone. Cependant, outre sa soif de liberté, l'épanouissement personnel d'Isabelle Eberhardt passe par l'écriture. En 1903, elle rencontre Victor Baroukan, un journaliste. Pour son hebdomadaire « L'Akbar », où il milite pour, entre guillemets, un colonialisme plus humain, il lui propose un poste d'envoyée spéciale. Elle devient donc une des premières femmes reporters de guerre, envoyée spéciale à Aïn Sefra, à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, où des troubles ont éclaté en signe de rébellion contre l'occupant français. Elle peut ainsi s'adonner à ce qui lui tient tant à cœur, rendre compte de la vie quotidienne des populations locales au temps de la colonisation française. C'est là qu'elle fait la connaissance du général Lyoté, figure de la France coloniale. Alors entre eux, paradoxalement, c'est une amitié fulgurante, teintée d'admiration de la part de Lyoté, qui était fasciné par cette rebelle. Il dira d'elle, je cite, « Elle était ce qui m'attire le plus au monde, une réfractaire. Trouver quelqu'un qui est vraiment soi, qui est hors de tout préjugé, de toute inféodation, de tout cliché, et qui passe la vie aussi libérée de tout que l'oiseau dans le ciel, qu'elle régale. » Il aimait son prodigieux tempérament d'artiste. Il appréciait aussi sa compréhension de l'Afrique et des Africains, lui qui attribuait à tout officier colonial le triple rôle diplomatique, politique et militaire. Mais le 21 octobre 1904 survient la catastrophe. À 27 ans, l'Amazone des sables du désert trouve la mort dans la crue de l'Oued transformée en torrent furieux qui submerge la ville basse de Aïn Sefra et fait s'effondrer sur elle sa maison. Son corps n'est retrouvé qu'après 6 jours de recherche. Elle est enterrée au cimetière musulman de la commune. Sur sa tombe, ces quelques lignes rendant compte de sa double identité. Isabelle Eberhardt, épouse Slimane Henny, en caractère romain, et Mahmoud Saadi en lettres arabes. Après une quête effrénée, les soldats de Lyoté exhument de la boue sous les décombres une malle pleine de manuscrits, de la main d'Isabelle, des nouvelles, des lettres, un portrait, un journal. Victor Baroukan les édite, contribuant à sa notoriété posthume. Mais l'énigme de la personnalité d'Isabelle Eberhardt demeure. Était-elle une aventurière, une insoumise, une mystique avide d'absolu, sans doute un peu des trois à la fois. Isabelle Eberhardt voulait écrire et se battre. Elle voulait tout vivre et tout connaître. Elle a vécu une vie fulgurante et tumultueuse. Elle est morte jeune, en femme libre, admirable, impressionnante. Elle a vécu une vie dangereuse, mais toute vie libre ne comporte-t-elle pas une part de danger ? N'est-ce pas ce qui en fait le sel ? L'on peut trouver cette exaltation de la découverte au plus près de nous, disait-elle, dans « Lettres et journaliers ». Je cite « Tout voyage, même dans les contrées les plus fréquentées et les plus connues, est une exploration ». Dans sa fuite vers l'Orient compliqué, elle avait trouvé un moyen personnel d'échapper au sort qui l'attendait en Europe en tant que jeune fille du XIXe siècle, le mariage, le conformisme, la soumission. Elle est allée au bout de son rêve, en cela nous l'admirons. Sa fin tragique d'héroïque jeune femme nous donne envie de pleurer, mais aujourd'hui, parmi nous, y en a-t-il un, y en a-t-il une qui eût voulu être Isabelle Eberhardt ? Alors ses œuvres, j'ai relevé quelques-unes, Amour nomade, 12 nouvelles, Yasmina, Notes de route du Maroc, Algérie, Tunisie, tous ces pays qu'elle a parcourus par chevauchée avec son cheval, et Pages d'Islam. Et puis, beaucoup de personnes ont écrit sur elle pour essayer de décrypter sa personnalité complexe. Je cite 2 écrivaines. Edmonde Charleroux, qui a écrit en 1988 « Désir d'Orient », donc la jeunesse d'Isabelle, enfin la jeunesse, elle est morte jeune, d'Isabelle Eberhardt, et en 1995 « Nomade j'étais », aux éditions Grasset. Et puis plus près de nous, Tiffany Tavernier a édité en 2016 chez Taillandier « Isabelle Eberhardt, un destin dans l'islam ». Et en conclusion, on peut dire qu'un mémorial lui est dédié dans sa ville natale à Genève. On peut le voir si on va à Genève. Voilà.
Merci Jacqueline pour ce beau portrait encore. Donc Isabelle Eberhardt, on rappelle l'année.
Alors Isabelle Eberhardt, 1877, 1904.
Merci et à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.